Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 15. De l'entraide par gros temps. Deuxième partie. L'image traditionnelle des années 1920 comme période de prospérité et de légèreté n'est pas complètement fausse. L'ère du jazz, les Roaring Twenties, etc. Le nombre de chômeurs avait diminué, passant de 4 270 000 en 1921 à environ 2 millions en 1927. Le niveau moyen des salaires des travailleurs avait augmenté. Certains agriculteurs gagnaient pas mal d'argent. Les familles ayant un revenu annuel de plus de 2 000 $, 40% de l'ensemble, pouvaient se permettre l'achat de gadgets modernes, auto, radio, réfrigérateur, etc. Des millions de gens ne s'en sortaient pas si mal et pouvaient, sans souci, rejeter les autres hors du cadre. Les petits fermiers blancs et noirs et les familles émigrées des grandes villes, sans travail, ou trop pauvres pour subvenir aux besoins de première nécessité. La prospérité restait cependant concentrée au sommet de la pyramide. Entre 1922 et 1929, tandis que les salaires moyens dans l'industrie augmentaient de 1,4% par an, le revenu annuel des actionnaires progressait de 16,4%. 6 millions de familles, 42% au total, gagnaient moins de 1 000 $ par an. Selon un rapport de la Brookings Institution, les 0,1% des familles qui occupaient le sommet de la pyramide gagnaient autant que les 42% les plus pauvres. Pendant les années 1920, quelques 25 000 travailleurs trouvaient chaque année la mort sur leur lieu de travail et 100 000 autres restaient handicapés à vie. À New York, 2 millions de personnes vivaient dans des logements considérés comme de véritables pièges en cas d'incendie. Le pays comptait de nombreuses petites villes industrielles, comme Muncie, dans l'Indiana, où, selon Robert et Ellen Lind, Middletown, la structure de classe pouvait se lire dans la variation des horaires de réveil. Dans 2/3 des familles, le père se lève dans la nuit de l'hiver, mange dans la cuisine à la va-vite, dans la grisaille de l'aube, et rejoint son poste 1 ou 2 heures avant que ses enfants ne partent pour l'école. Il y avait néanmoins assez de gens vivant confortablement pour faire passer les autres à l'arrière-plan. L'historien Merle Curti a observé que dans les années 1920, seuls les 10% les plus riches avaient pu constater une augmentation significative de leurs revenus réels. Mais les protestations légitimes que de tels chiffres avaient soulevées ne parvenaient pas à se faire entendre sur une grande échelle. Cela était dû à la fois à la stratégie d'envergure mise en place par les deux plus importantes formations politiques et au fait que la plupart des moyens d'information de l'opinion publique étaient désormais contrôlés par des grands groupes de presse. Quelques écrivains tentèrent bien de briser le silence, tels Theodore Dreiser, Sinclair Lewis et Lewis Mumford. Dans un article intitulé « Echoes of the Jazz Age », Francis Scott Fitzgerald écrivit qu'il s'agissait néanmoins d'une époque sombre. Les 10% les plus riches de la population vivent avec la désinvolture d'un grand-duc et l'insouciance d'une petite danseuse. Il remarquait des signes troublants au milieu de toute cette prospérité. Alcoolisme, malheur, et violence. Dans son roman « Babbitt », Sinclair Lewis rend compte de ce faux sentiment de prospérité, de ce plaisir superficiel offert par les nouveaux gadgets destinés à la classe moyenne. Il s'agissait du meilleur réveil, produit en série et distribué dans tout le pays, avec les accessoires les plus modernes, comme le carillon type cathédrale, l'alarme intermittente et le cadran phosphorescent. Babit était fière d'être réveillée par un mécanisme aussi sophistiqué. Socialement, c'était aussi valable que d'acheter de coûteux pneus renforcés. Il se rendait compte à présent, avec mauvaise humeur, qu'il n'y avait plus d'échappatoire, mais il restait là, allongé, et détestait la corvée de son boulot dans l'immobilier, et n'aimait pas non plus sa famille, et se détestait de ne pas les aimer. Après le vote du 19e amendement et après de longues années de lutte, les femmes avaient finalement acquis le droit de vote en 1920. Le vote demeurait néanmoins une pratique des classes moyennes et aisées. Eleanor Flexner, retraçant l'histoire du mouvement, affirme que le vote féminin a surtout permis de constater que les femmes ont montré la même tendance à s'en remettre aux deux partis orthodoxes que les électeurs hommes. Au cours des années 1920, rares furent les personnalités politiques à prendre la parole au nom des pauvres. Parmi ceux qui le firent pourtant, on trouve Fiorello La Guardia, membre du Congrès élu dans un district d'immigrés pauvres d'East Harlem. Assez bizarrement, il se présentait sous les deux bannières, socialiste et républicaine. Au milieu des années 1920, les habitants de son secteur l'interpellèrent sur les prix élevés de la viande. Lorsque La Guardia demanda au secrétaire à l'agriculture, William Jardine, de mener une enquête sur ces prix excessifs, Jardine lui adressa une brochure expliquant comment utiliser la viande de façon économique. La Guardia lui répondit en retour « J'ai demandé votre aide et vous m'envoyez une brochure. Le peuple de New York ne peut pas nourrir ses enfants avec les publications du ministère. Vos brochures ne sont d'aucune utilité pour les habitants de notre grande ville. Les ménagères de New York savent parfaitement, par la dure expérience qu'elles en ont, comment utiliser économiquement la viande. Ce que nous voulons, c'est l'aide de votre ministère contre les profiteurs qui empêchent les travailleurs new-yorkais de se nourrir convenablement. » Pendant les présidences de Harding, 1921-1923, et de Coolidge, 1923-1929, le secrétaire au Trésor s'appelait Andrex Mellon, l'un des hommes les plus riches d'Amérique. En 1923, le Congrès étudia le plan Mellon, qui se présentait comme une baisse générale des impôts sur le revenu. Il prévoyait, en fait, de réduire de 50 à 25% l'imposition des plus hauts revenus et de 3 à 4% celle des revenus les plus bas. Certains membres du Congrès, représentant les zones ouvrières, protestèrent contre ce projet. William Connery, dans le Massachusetts, fut de ceux-là. « Je ne peux pas laisser penser à mes électeurs qui travaillent dans les usines de chaussures de Lynn, dans les manufactures de Lawrence et dans l'industrie du cuir de Peabody que, en cette période de prétendue prospérité républicaine, j'accepte ce projet. Lorsque je vois dans ce plan Mellon une mesure destinée à économiser à M. Mellon lui-même quelques 800 000 dollars d'impôt sur le revenu et à son frère 600 000 dollars, je ne peux pas être d'accord. » Le plan Mellon fut tout de même voté. Noyé dans le flot d'informations sur les six prospères années 1920, surgissaient pourtant, de temps à autre, des nouvelles révélant l'âpreté des conflits sociaux. en 1922, les mines de charbon et les chemins de fer se mirent en grève. En 1922, une grève menée par les ouvriers italiens et portugais des industries textiles du Rhode Island échoua. Mais la conscience de classe en fut avivée et certains grévistes rejoignirent les mouvements radicaux. Après la guerre, tandis que le Parti socialiste s'essoufflait, un parti communiste fut créé. Les communistes s'impliquèrent dans la mise sur pied de la Trade Union Education League, TUEL, qui essaya d'insuffler un esprit militant au sein de l'AFL. Lorsque Ben Gold, communiste et membre de la section des fourreurs affiliés à la TUEL, mit en cause la direction de l'AFL au cours d'un rassemblement, il fut rossé et reçut plusieurs coups de couteau. En 1926, avec d'autres communistes, il lança une grève de fourreurs. Ils organisèrent un piquet de grève et se battirent contre la police, avant d'être arrêtés et roués de coups. Mais la grève continua jusqu'à ce qu'ils obtiennent la semaine des 40 heures et une augmentation de salaire. Les communistes jouèrent à nouveau un rôle important dans la grève du textile qui toucha les deux Carolines et le Tennessee au printemps 1929. Les patrons du textile s'étaient délocalisés vers le sud pour échapper à la pression des syndicats et pour trouver une main-d'œuvre plus conciliante parmi les blancs pauvres. Ces derniers se soulevèrent pourtant contre les horaires écrasants et les salaires de misère. Ils refusaient, en particulier, le système dit « d'extension ». Par exemple, un tisserand qui avait travaillé sur 24 métiers et gagné 18,90 $ en une semaine, pouvait être augmenté à 23 $, en étant alors étendu sur 100 métiers à tisser, à un rythme extravagant. La première de ces grèves du textile éclata au Tennessee, où 500 ouvrières d'une usine cessèrent le travail pour protester contre les salaires de 9 à 10 $ la semaine. Puis, à Gastonia, en Caroline du Nord, les ouvriers adhérèrent à un nouveau syndicat, dirigé par les communistes, le National Textile Workers Union, qui admettait aussi bien les Noirs que les Blancs. Quand certains d'entre eux furent licenciés, la moitié des 2000 employés décidèrent de faire grève. Une atmosphère de racisme et d'anticommunisme commença alors à se répandre et la violence éclata. Les grèves du textile gagnèrent la Caroline du Sud. Les unes après les autres, les grèves se conclurent, parfois même à l'avantage des grévistes. Sauf à Gastonia, où les ouvriers, installés dans un campement et refusant de se séparer des communistes qui étaient à leur tête, poursuivirent la grève. Mais des travailleurs furent appelés en renfort pour briser la grève et la production ne s'arrêta pas. Malgré tous ces échecs, ces coups et ces meurtres, ce fut le début du syndicalisme dans l'industrie du textile du Sud. Le crash boursier de 1929 qui marqua le début de la Grande Dépression aux États-Unis fut directement provoqué par des spéculations sauvages qui manquèrent leur coup et entraînèrent toute l'économie avec elles. Comme l'affirme John Galbraith dans son analyse de l'événement The Great Crash, derrière cette spéculation, il y avait également le fait que, dans son ensemble, l'économie était déjà fondamentalement malade. Galbraith dénonce la mauvaise santé des structures industrielles et bancaires, un commerce extérieur boiteux, de nombreuses erreurs d'analyse économique et la mauvaise répartition du revenu. Près d'un tiers du revenu global individuel était aux mains des 5% les plus aisés de la population. Une critique socialiste irait plus loin et affirmerait que le système capitaliste est par nature malsain. Un système dont la motivation prépondérante est le profit industriel est inévitablement instable, imprévisible et sourd aux besoins essentiels de l'humanité. En conséquence, une dépression permanente pour une multitude de gens et des crises périodiques pour à peu près tout le monde. Le capitalisme, malgré les tentatives d'autorégulation et les mesures engagées pour en assurer une maîtrise plus efficace, restait, en 1929, un système malade et peu fiable. Après le crash, l'économie était assommée, pratiquement paralysée. Plus de 5000 banques fermèrent leurs portes et de très nombreuses activités, faute de pouvoir obtenir de l'argent, cessèrent également. Celles qui ne s'arrêtèrent pas licencièrent de nombreux employés et baissèrent régulièrement les salaires. La production industrielle chuta de 50%. En 1933, près de 15 millions de travailleurs étaient au chômage. Ford, qui au printemps 1929 employait 128 000 salariés, n'en comptait plus que 37 000 en août 1931. À la fin de 1930, près de la moitié des 280 000 ouvriers du textile de la Nouvelle-Angleterre se retrouvaient sans emploi. Assurément, les responsables de l'économie américaine ne comprenaient pas ce qu'il s'était passé. Ils étaient déroutés et, refusant de reconnaître leurs erreurs, trouvèrent d'autres raisons que le simple échec du système. Herbert Hoover, président républicain de 1929 à 1933, déclarait peu avant le crash que l'Amérique était plus près de remporter la victoire finale sur la pauvreté qu'aucun pays à travers l'histoire. En mars 31, Henry Ford prétendait que la crise était due au fait que le citoyen moyen ne ferait jamais sa journée de travail si on ne l'attrapait pas pour l'obliger à la faire. Il y a plein de travail pour ceux qui veulent travailler. Quelques semaines plus tard, il licenciait 75 000 ouvriers. Il y avait des millions de tonnes de nourriture disponibles, mais on ne pouvait tirer profit ni de leur transport, ni de leur vente. Il y avait des vêtements plein les entrepôts, mais les gens ne pouvaient pas les acheter. De nombreux logements étaient disponibles, mais restaient vacants. Personne ne pouvait en payer les loyers. Les gens avaient été expulsés de chez eux et vivaient désormais dans des taudis, qui s'étaient rapidement construits, dans les décharges. En Oklahoma, on vendait les fermes aux enchères. Les fermiers les virent tomber en ruine avant que les tracteurs n'arrivent et ne se mettent au travail. Dans Les raisins de la colère, John Steinbeck décrit tout ça. Et les dépossédés, les vagabonds, affluèrent en Californie. 250 000, puis 300 000. Derrière eux, des tracteurs tout neufs investissaient la terre et les fermiers étaient expulsés de force. De nouvelles vagues se formaient. De nouvelles vagues de dépossédés et de sans-abri. Durs, résolus et dangereux. Et un homme affamé, sans toit, roulant sur la route avec sa femme à ses côtés et ses enfants, malingres, sur le siège arrière, pouvait contempler les champs en friche, capables de produire de la nourriture, mais pas de profit. Et cet homme savait que c'est un péché de laisser un champ en friche et qu'une terre à l'abandon est un crime contre les enfants, malingres. Au sud, il vit pendre aux branches des arbres les oranges dorées, les petites oranges dorées sur les arbres vert sombre, et les gardes armés de fusils patrouillant à la lisière pour empêcher qu'un homme ne cueille une orange pour un enfant malingre. Des oranges qu'on jetterait si leur prix était trop bas. Steinbeck avait raison. Ces gens devenaient dangereux. L'esprit de révolte allait croissant. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.